Il est 8h23 à Paris, voici Frédéric Couteau pour la revue de presse des journaux français. Bonjour Frédéric.
Bonjour Arnaud, bonjour à tous.
À la une, qui est derrière l'attaque des pétroliers dans le détroit d'Ormuz?
4 jours après les attaques de tankers dans le golfe d'Oman, 2 camps se forment, constate Libération, ceux emmenés par l'administration américaine qui accuse l'Iran et ceux qui demandent à en savoir plus avant de se prononcer. Dès jeudi, Washington avait, par l'intermédiaire du secrétaire d'État Mike Pompeo, rappelle le journal désigné La République, islamique comme responsable des explosions ayant touché un méthanier japonais et un pétrolier norvégien, des affirmations répétées le lendemain par Donald Trump. Le Royaume-Uni s'est aussi dit presque certain de la culpabilité iranienne après avoir procédé à sa propre évaluation. Les services de renseignement israéliens seraient arrivés à la même conclusion. Grande rivale régionale de la République islamique, l'Arabie Saoudite a également mis Téhéran en accusation. À l'opposé, pointe Libération, les responsables iraniens ont nié en bloc depuis jeudi, sous-entendant qu'il s'agirait d'un coup monté. Et puis de leur côté, la Russie et l'Allemagne ont demandé à en savoir plus avant de se prononcer. Moscou a tensé la politique iranophobe des États-Unis et souhaité la constitution d'une enquête internationale détaillée et impartiale. Une demande également formulée vendredi, rappelle encore Libé, par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres.
En tout cas, pointe la croix, une dangereuse logique de guerre se met en place dans le golfe Persique.
Le plus inquiétant est que toutes ces pistes évoquées sont vraisemblables, estime le quotidien catholique, car cela manifeste les risques que les acteurs sont prêts à prendre pour tirer leur épingle du jeu dans une crise aux enjeux très élevés, dont le plus immédiat est économique. En effet, si le détroit d'Ormuz se trouve fermé au libre passage des cargos, l'approvisionnement de la planète en pétrole serait gravement perturbé. Et c'est sur cet effet de levier, estime la Croix, que peuvent jouer des provocateurs pour régler des comptes géopolitiques. Téhéran, pour montrer sa puissance de nuisance, alors que Donald Trump l'ostracise, les puissances arabes et Israël pour bloquer l'avancée de l'Iran sur l'échiquier régional. Et la croix de rappeler qu'en 2013, l'historien australien Christopher Clark avait consacré un travail magistral au déclenchement de la Première Guerre mondiale, intitulé « Les somnambules ». Cet ouvrage montrait comment, par le jeu des rivalités et des alliances, les puissances européennes s'étaient alors laissées glisser dans la guerre, presque à leur insu. Nous sommes confronté aujourd'hui, conclut la Croix, à un risque comme celui-là.
À la une également, la victoire de la rue à Hong Kong.
Telle une bruyante cataracte, relate le correspondant du Figaro, la marée noire humaine s'écoule inlassablement entre les gratte-ciel scintillants de Wan Chai, lançant un cri de défi à la Chine rouge jusqu'au cœur de la nuit moite. Démission, hurle la foule, vêtue de t-shirts noirs, en brandissant des effigies de Carrie Lam, la chef de l'exécutif de Hong Kong, nommée par Pékin. La suspension de l'examen de la controversée loi d'extradition vers la Chine annoncée la veille par la bureaucrate n'a pas calmé la colère de la population qui est descendue une nouvelle fois donc en masse dans les rues hier dimanche pour exiger le retrait définitif du texte. Carrie Lam a commencé à être lâchée par son propre camp, pointe Libération, et même Pékin s'est désolidarisé par la voix de l'ambassadeur de Chine au Royaume-Uni, Liu Xiaoming, qui a affirmé à la BBC que le régime communiste n'avait donné finalement aucune instruction au gouvernement de Hong Kong. Le tout sur fond d'inquiétude, des marchés, de transferts de fortune vers l'étranger et d'avalanches de critiques de la part de la communauté internationale. La décision du magnat de l'immobilier Goldin de renoncer à un gros projet sur le site de l'ancien aéroport de Kai Tak à cause du texte n'a que mieux illustré encore les craintes que le texte puisse ébranler la stabilité de Hong Kong et sa sécurité juridique.
Ces événements sont observés de près par Taïwan, relève pour sa part le républicain Lorrain.
Oui, Taïwan, l'autre Chine, toujours sous la menace d'une annexion par la force, ils doivent être replacés, ces événements, dans le contexte d'un expansionnisme et d'un durcissement dont le régime chinois ne fait plus mystère. En effet, complète sud-ouest, les cortèges de Hong Kong sont scrutés avec une attention particulière dans cet autre petit morceau de Chine, l'île de Taïwan, aujourd'hui démocratie authentique, mais que Pékin n'a pas renoncé à récupérer. Un pays, deux systèmes, Voilà ce qui est censé appâter les quelques 24 millions de Taïwanais. Il ne faut donc pas trop les effaroucher par des lois liberticides ou des répressions trop féroces sur le territoire qui expérimente la formule. C'est sans doute la chance des manifestants de Hong Kong, conclut Sud-Ouest, avec ou sans parapluie.
En France, le bac, et c'est parti pour l'épreuve de philosophie.
Désormais 80% d'une classe d'âge décroche le fameux diplôme. À quoi donc sert le bac de nos jours? On reste avec Sud-Ouest. Réponse du journal, aujourd'hui il sert surtout à marquer la fin des études au lycée. Il est donc assez logique que le taux de réussite soit élevé. Il valide ce qui a été appris. En revanche, le bac a moins de valeur pour les études supérieures. Il est certes nécessaire, mais pas suffisant pour s'orienter. En effet, les réponses de Parcoursup tombent bien avant les résultats du baccalauréat.
Et puis la Coupe du Monde féminine de football, c'est l'engouement, constate le Parisien.
Ce soir, pour le match Nigeria-France, le Roazhon Park de Rennes affichera complet, comme avant lui, le Parc des Princes et le Stade de Nice. Plus de 10 millions de téléspectateurs devraient avoir les yeux rivés sur leur petit écran, comme contre la Corée du Sud et la Norvège. Avec les femmes et les enfants d'abord, s'exclame le Parisien, un public plus large, plus familial encore que celui de l'équipe de France masculine. Quel que soit le sport ou le sexe, il n'y a rien de mieux qu'une sélection en bleu, blanc, rouge lancée dans un destin planétaire pour générer fierté et euphorie collective. Il y a un an, rappelle le Parisien, c'était les hommes de Deschamps. Si on peut apporter un peu de bonheur aux gens et promouvoir notre discipline, résume la sélectionneuse des Bleus, Corinne Diacre, eh bien, on ne va pas s'en priver. Et désormais, dans les magasins, pointe pour sa part la Voix du Nord, on trouve des maillots avec des coupes féminines et des maillots pour hommes avec des noms de joueuses. Exemple, Henri, numéro 6. Henri, non pas Thierry, mais Amandine.
La revue de presse signée Frédéric Couteau, à retrouver en ligne sur RFI.fr.